Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée pour Mémoire Aveyronnaise, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui, affirmatif.
Je te demande pas si t'as passé de bonnes vacances, parce que à la limite cela ne nous regarde pas, mais je sais qu'elles ont été très liées à des sujets que tu, sur lesquels tu reviens régulièrement.
Alors très bonnes, très bonnes les vacances, mais ça a été des vacances studieuses,
oui.
Vacances heureuses. Toujours voilà, dans le mémorial. Le mémoriel, pardon.
Très bien. Et du travail aussi, puisqu'il y a bientôt un livre à paraître que tu as écrit.
Tout à fait.
On aura l'occasion d'en reparler sur CFM.
Aussi, la prochaine émission, oui.
Souscription qui sera ouverte à cette occasion. Bon,
oui.
Très bien. Alors, cette semaine, pour cette rentrée, Vincent, de quoi on va parler?
Ah, bah alors j'ai une question à te poser.
Ah, bah,
d'abord, avant de te dire de quoi on va parler.
Une réponse, moi.
Est-ce que tu sais ce que sont les ovnis?
Ah, bah oui.
Alors, c'est quoi?
Bah, les objets volants non identifiés.
Voilà. Alors, est-ce que tu crois qu'on va parler de ça?
Bah, si tu m'en parles... Moi, j'aimerais bien. J'aime bien les ovnis.
Voyons. Ah, c'est une émission sérieuse ici. Mais oh, tu te crois où? Pas du tout.
Ah, bah alors.
Par contre, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un AVI? AVI.
Volant identifié, alors.
Volant identifié. Le A, c'est quoi?
Un avion. Volant identifié.
Alors, un AB. Volant identifié.
Un abbé
volant identifié. Je vais vous parler du célèbre abbé volant. Je vais vous parler de l'abbé Charles Carnus, qui est un pionnier de l'aérostation, c'est les montgolfières.
D'accord.
Et qui est aussi le patron des aviateurs et des aérostiers.
Oh, bah attends, je ne savais pas. Alors là, je ne savais pas du tout.
Charles Carnus, le nom est connu.
Bah,
sur Rodez.
Oui, il y a une rue.
Et alors, j'en parlerai à la fin pour vous dire tout ce qui reste.
Après,
et tout ce qu'il a laissé comme trace sur Rodez. Mais il y a une rue, il y a une école, il y a pas mal de petites choses.
Le reste, j'en sais rien.
Voilà.
Bon, alors ça nous remonte l'aéro machin, donc ça nous remonte au 19e siècle.
Perdu.
Non, 18e.
Et oui, 18e. Et oui, Montgolfier,
ouais,
les frères Montgolfier.
C'est 10 ans avant le 18e. Je me suis dit, bon, il est venu après, là, tranquille, tu vois. Non.
Alors, Charles Carnus est né le 30 mai 1749 à Pérignac. Pérignac, c'est paroisse de Notre-Dame de Vanques. Il y a une très, très, très belle petite église à Notre-Dame de Vanques.
Mais c'est où, ça?
À côté de Seyrac. Voilà, en fait, c'est.
Non,
même Seyrac, tu connais pas.
Non.
Faut qu'ils t'y mettent à l'Aveyron quand même.
Non, là, oui.
C'est après l'aéroport.
Ah, bah d'accord.
Voilà.
Okay.
Après l'aéroport sur la droite.
Okay,
et c'est commune, mais c'est une très très grosse commune. C'est commune de Salles-la-Source.
Ah,
alors
voilà.
Cherchez pas à côté de Salles-la-Source parce que c'est vraiment très étendu comme commune.
D'accord.
Ses parents étaient agriculteurs. Et lui était le cinquième enfant d'une fratrie de 8.
Mmh.
Voilà. Alors, il avait, ce Charles Carnus, de grandes dispositions pour les études et aussi pour la religion. Il entre tout d'abord au Collège Royal de Rodez en 1769. Est-ce que ça te dit quelque chose,
non,
le Collège Royal?
Oui, le Collège Royal, c'est là, Place Foch, non?
Voilà, tout à fait, juste à côté. L'ancien Collège Royal, c'est ce qui est devenu le Collège Foch. Alors, il reste pas mal de choses. Il reste, ça a déménagé. Et maintenant, c'est le lycée Foch,
qui est... Mais Place Foch, ça n'a pas dû beaucoup bouger.
Si, ça a perdu des bâtiments.
Ah bon?
Oui, dans les années 60, les bâtiments ont brûlé.
Oui.
Une partie des bâtiments, c'est pour ça que l'école a déménagé.
D'accord.
Et en fait, il reste trois parties.
Ah.
Il reste une partie des anciens bâtiments, on voit que c'est très ancien, d'ailleurs ça doit dater du 18e, peut-être même 17e, qui servent pour les bâtiments de la préfecture.
Oui, je vois.
Si t'as la carte grise à refaire, c'est là-bas.
Là-bas, oui.
Il reste la très 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 belle chapelle royale.
Bien sûr.
Voilà, c'était la chapelle du Collège Royal.
Voilà, qui a été rénovée il y a peu.
Voilà, tout à fait. Et où il y a une exposition.
En ce moment,
d'ailleurs,
il faut que j'aille voir.
Voilà, profitez-moi aussi dès que je vais sortir, parce que ça me permet toujours de revoir l'intérieur qui est superbe. Et il y a la galerie Foch.
Bien sûr.
Voilà. Donc,
sous les arcades.
Voilà, il reste quelques bâtiments, mais c'était vraiment une cour fermée. Il y avait beaucoup plus de bâtiments que ça. Alors, lui va faire donc le début de sa scolarité là-bas. Et ensuite, il quitte Rodez et il est envoyé à Paris. Pour rentrer au séminaire du collège des 30. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Non.
Pardon, on est 33. Pas 30. j'en oublie 3.
33 dit 33.
33, c'est l'âge de la mort du Christ. Voilà. Aussi. L'âge qu'avait le Christ à sa mort. Ouais. En fait, c'est rue de la Montagne Sainte-Geneviève,
ah bah là, je
à Paris.
Aussi. Moi, je aussi.
Donc, il fait des études à ce séminaire à cet endroit-là. Puis, il va, toujours sur la colline, la montagne pardon, Sainte-Geneviève, il va au collège de Navarre. Mm-hmm. Ensuite, il est ordonné prêtre en 1773. Et revient au collège de Navarre, mais là il revient en tant que professeur. Mmh. Il retrouve le Rouergue, son Rouergue natal en 1776, où il reçoit une charge de professeur, alors d'abord en théologie et après en sciences physiques. Toujours ouais, là où il avait commencé ses études, c'est toujours rigolo pour des professeurs de faire d'être d'enseigner là où ils ont là où ils ont fait leurs études, donc au collège royal de Rodez. Jusqu'en 1791. Mmh. Voilà, une date importante, à la fois pour la France et malheureusement pour...
Pour l'Église
pour
de France.
Pour l'Église et pour Charles Carnus. On verra ça à la fin.
Oui.
En 1784, il se prend de passion pour une toute nouvelle invention qui permet à l'homme de s'élever vers les cieux.
Voilà.
Alors pour un abbé, c'est quand même bien d'essayer de s'élever et d'être un peu plus près du Seigneur.
Ouais.
Il s'agit bien entendu de la montgolfière. Alors, le premier ballon, on va quitter un peu l'abbé Carnus pour l'instant. On va parler de cette fameuse toute nouvelle invention de la montgolfière. Le premier ballon à air chaud, on va pas parler de montgolfière, hein, puisque c'est le nom des créateurs, a été inventé justement par les frères montgolfiers, par Jean-Michel et Jacques-Étienne. Ça a été inventé en 1782. Bon, donc, on le sait maintenant, le nom est connu, c'est vraiment la montgolfière. Ils n'ont rien trouvé de mieux que donner à leur création leur nom, montgolfier, donc montgolfière. Le premier vol est un vol non habité. Il n'y a personne dedans. C'est des vols, les premiers vols, ça va être des vols captifs. C'est-à-dire que...
Accroché.
On a une corde accrochée au sol et on ne le laisse pas partir. On ne sait pas trop encore. Mmh. On ne connaît pas trop le sens des vents, machin. Voilà. Vraiment, ce sont des essais. Donc, premier vol non habité. Il s'élève pour la première fois à Annonay. Annonay, c'est entre Lyon et Valence. Le 4 juin 1783. Le 19 septembre de la même année... Les frères montgolfiers réitèrent cette expérience, alors là, attention, à Versailles, devant la cour et devant le roi Louis XVI. Mmh. Là, le vol, cette fois, est habité. Mmh. Mais, tu vois, c'est comme les médicaments, on fait d'abord des essais sur les animaux, les pauvres, et après sur l'homme, on ne sait jamais. Comme le premier vol aussi dans l'espace. Mmh. Donc le premier vol habité par un coq, un mouton et un canard.
Ah bah.
Ce vol est vraiment une réussite avec un retentissement mondial et on en parle vraiment partout. Mm-hmm. Un mois plus tard, Jean-François Pilâtre de Rosiers et Giroux de Valette effectuent, eux, le premier vol humain. Et le ballon reste pareil, est toujours captif. Le premier vol libre, lui, aura lieu en novembre et va parcourir 9 km du bois de Boulogne à l'actuelle place Paul Verlaine dans le 13e arrondissement.
D'accord, traversée de Paris.
Toi qui es parisien.
Traversée de Paris.
Tu dois connaître.
Ouais, très bien.
9 km dans Paris, c'est pas mal. Hein.
Oh, ouais, c'est bien. Oui. Moi, j'aurais pas osé. Hein.
Et surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Très impressionné, donc on va revenir à Charles Carnus, hein, très impressionné par cette nouvelle invention, et prof de physique, on l'a vu, Charles Carnus décide de construire sa propre montgolfière avec ses élèves.
Uh-huh.
Voilà, donc il réalise un peu sa passion et puis son travail d'enseignant un petit peu avec ses élèves. Très intéressé aussi par son projet. L'évêque de Rodez, Monseigneur Seignelet Colbert de Castil, c'est un peu difficile à prononcer, décide de soutenir le travail de son abbé et lance une souscription qui va récolter près de 2000 livres.
D'accord.
C'est vraiment, pour l'époque, c'est vraiment une grosse somme, c'est vraiment important. La montgolfière est baptisée, attention, Ville de Rodez.
Ah, dingue.
Ah, c'est bien. Hein,
ouais, bien. La mairie, il y avait il y avait déjà des mairies à l'époque. Non, enfin, ça s'appelait pas comme ça. Enfin, bon, bref.
Je sais pas si Christian Tessé avait financé déjà à l'époque, mais c'est vrai que. En tout cas, on parle que de l'évêque. Ouais, hein, parce que je te rappelle qu'à l'époque, à l'Ancien Régime, Rodez était divisé en deux.
Oui, tout à fait.
Il y avait le bourg et la cité.
Tout à fait.
Donc, le 22 juillet 1784, l'abbé Carnus et un de ses collègues, l'abbé Louis Louchet, également professeur au Collège Royal de Rodez, réalise un vol d'essai sans personne ni animal à bord. Le vol se passe bien et la montgolfière atterrit juste en dehors des remparts de la ville. Donc, c'est réussi.
Donc, il fait ça là, sur le piton, quoi.
Direct.
D'accord, ok.
Ben, bah, il vaut mieux se lancer de plus haut, hein, oui, parce qu'il faut que ça monte. Hein. Ouais, bah, tu verras justement, monter, c'est pas souvent évident, surtout à l'époque où vraiment c'est les balbutiements
et
on fait surtout des essais. Quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Quelques jours plus tard, le 6 août, donc on est toujours en 1784, hein, 8 mois après le premier vol de Pilâtre de Rosiers, la montgolfière donc de l'abbé Carnus et de son collègue s'envole de Rodez, carrément du centre du collège royal,
ouais,
à 8h28.
De bon matin.
Ah,
mais ils ont continué, les montgolfières, c'est de bon matin. Toujours,
ah, c'est toujours très très tôt. Ouais. Alors, on m'avait expliqué, ouais, je sais plus pourquoi. Est-ce que c'est une histoire de pression ou de courant d'air, je sais plus, mais je sais qu'il y a une raison. Au bout de 12 km. 12 km, c'est pas mal quand même, hein, surtout habité de deux personnes.
Bah, ouais.
Au bout de 2 km, la montgolfière commence. 12. Mmh. 12 km. La montgolfière commence à perdre pas mal d'altitude et s'accroche à un petit chêne.
Ah.
Aïe. Donc, l'abbé Carnus descend de la montgolfière. Il ne reste plus que son collègue. Une fois allégé, la montgolfière remonte un petit peu. Et réussit à parcourir 2 km de plus pour atterrir au hameau de Comels. Comel, c'est sur la commune de Flavin, du côté d'Ignières, après un vol de 35 minutes et 14 km.
Bah, écoute, c'est
pour les prémices de la montgolfière et de l'aérostation, enfin, moi franchement, je trouve que c'est quand même pas mal.
Ça devait être le record de vitesse à l'époque Rodez-Flavin.
Hein, c'est sûr.
C'est pas
à l'époque où on marchait qu'avec des chevaux, des calèches et il fallait voir l'état des routes. Je sais plus combien de jours, je crois que c'était une semaine pour monter sur Paris. Enfin, c'était à l'époque où effectivement c'était très long. L'abbé Carnus est la 4e personne au monde à avoir fabriqué une montgolfière. C'est quand même pas mal. Hein. Il existe une très belle gravure qu'on connaît bien en Aveyron et sur Rodez parce qu'elle a été refaite, elle a été copiée plein de fois. Une gravure de 1784 qui représente justement la montgolfière ville de Rodez survolant la ville et la cathédrale. Vraiment super, très 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 super. Belle gravure.
Et on la voit où cette gravure ? L'original, tu
alors
sais
l'original,
ça
l'original, l'original, l'original. Ben, très bonne question. Tu vois, je fais très très mal mon travail d'investigation journalistique. Ouais. Peut-être à Fenaille. Tu sais, Fenaille est un très très beau musée. J'encourage tout le monde aller visiter ou à revisiter. Il y a vraiment de très très belles choses sur l'Aveyron et sur Rodez.
Ça se trouve, le musée de l'air et de l'espace.
Non, quand même pas. Je suis sûr, non, les Aveyronnais ne laissent pas partir des choses comme ça. C'est pas possible.
Bon.
Alors. Après être monté dans les airs, notre abbé va essayer d'aller un peu chercher des choses sous terre. Tu vois, c'est les deux extrêmes. Après être monté vers le ciel, je sais pas s'il voulait se rapprocher des enfers, je pense pas. Mais l'abbé Carnus est connu pour être un des premiers spéléologues au monde.
Ah ben, il était quand même spécial cet abbé.
Ah oui. Mais tu sais,
c'était un aventurier.
Ah oui, mais tu sais, les abbés, on le voit à l'époque, hein, les premiers archéologues, les premiers préhistoriens, les premiers savants, beaucoup de premiers botanistes.
Ouais, les spéléologues, tu vois. Il faut vraiment être motivé. Hein.
Faut vraiment être motivé. Ah, surtout quand on est religieux et qu'on sait qu'au sous-terre, c'est les enfers.
Ouais. Bon, allez-y si vous voulez.
C'est ça. Alors, parmi les. Bon, il a visité pas mal de grottes. Tout autour de Rodez, et les plus connus, alors j'espère que tu connais, parce que sinon il faut absolument y courir, c'est très joli, le trou du Tindoul de la Vessière.
Ah, je connais pas celui-là.
Oh,
c'est où ?
Décidément. Le Tindoul de la Vessière, c'est tout près de Sébazac. C'est vraiment pas loin, ça c'est vraiment à faire, note-le.
Le Tindoul ?
Le Tindoul de la Vessière.
Okay.
C'est un gouffre.
Mais moi,
ça ressemble en plus petit, si tu connais pas d'Irak. Vu d'en haut, je te parle, pas vu d'en bas, mais vu d'en haut, c'est pareil, c'est le corps est tout plat, et au milieu, il y a un gouffre un peu plus petit, mais très joli, comme Panirac.
Mais on n'est pas obligé de ramper ou de...
Non, il y a un petit chemin qui mène, et après c'est clôturé, bien entendu, pour pas chuter, ça serait dommage, mais c'est vraiment à faire, c'est une petite balade assez rapide et sympa autour de Rodez.
Et ben c'est noté.
Et également, une grotte assez connue, qui est près de Marcillac, c'est la Bouche de Roland.
Ah,
voilà.
Je ne connais pas non plus.
Voilà, c'est un peu moins connu.
D'accord.
Mais bon, t'es impardonnable, excuse-moi, mais pour le trou du Tindoul.
On va corriger ça.
Alors, le 14 juillet 1789, débute la Révolution française.
Ah, on est bien d'accord, oui.
On est bien d'accord. Le clergé est considéré comme étant un soutien important du roi et de la royauté.
Oui.
C'est pour cela que l'Assemblée nationale, le 12 juillet 1790, va voter la constitution civile du clergé, qui va complètement révolutionner, c'est le cas de le dire, l'Église de France.
Hein. Ah oui.
L'Église de France ne va plus du tout dépendre du pape, mais va dépendre de directement de la République française. Les prêtres seront payés, les évêques seront payés par l'État. Ils seront encouragés à dénoncer toute personne qui viendrait se confesser et qui voudrait commettre ou qui aurait commis un crime contre la République.
Bien sûr.
Et surtout, ils vont être obligés de prêter serment à la nation.
Ah.
Alors je vais vous lire ce serment. Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse ou du diocèse, suivant si c'est un évêque ou un prêtre qui jure, qui m'est confié d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Voilà.
On est en 1791, donc
oui,
c'est toujours
roi,
la nation, la loi et le roi.
Ouais, ouais.
Les prêtres qui acceptent sont appelés des prêtres jureurs, qui acceptent de prêter serment, et ceux qui refusent sont appelés des prêtres réfractaires. Ah. Alors, ces prêtres réfractaires vont être pourchassés, vont être déportés, et voué à une mort lente en déportation, que ce soit sur des pontons, on connaît beaucoup de cas sur l'île Madame ou les pontons de La Rochelle ou de Rochefort, ou carrément ce sont les premiers déportés au bagne de Cayenne. Voilà, quand ils sont pas directement massacrés sur place ou guillotinés. Comme il y en a eu notamment à Rodez. En désaccord avec la constitution civile du clergé, l'abbé Carnus, lui, va quitter Rodez, il va refuser de prêter serment, et va se réfugier, alors c'est un peu paradoxal parce que c'est là où il y a le plus de révolutionnaires, c'est de là qu'est partie la révolution, il va se réfugier à Paris.
Ah mais on peut se cacher à Paris, c'est grand, tu te caches.
Là, je sais pas si on peut se cacher, mais là tu vas voir ça...
Non, ça s'est pas bien passé.
Ça s'est pas bien caché. Ça s'est pas bien ni caché ni passé.
Ouais, d'accord.
Il va se cacher au séminaire des 33, donc là où il avait fait son...
Déjà mauvaise planquette.
Son séminaire, bah, ouais, voilà, c'est
il va,
ça.
Il va se cacher entre, au séminaire.
Entre prêtres, dans un séminaire.
Attends, oui,
bonjour, y a-t-il des prêtres? Oui. Donc, il va être dénoncé et il va être arrêté. Il va être arrêté et il sera incarcéré au séminaire Saint-Firmin. Ce séminaire, en fait, pendant la Révolution, va être converti en prison.
D'accord.
Du 2 septembre au 7 septembre, donc là, on est en plein, on est début septembre, 1792, une foule en délire force les portes de toutes les prisons révolutionnaires de la capitale et massacre près de 1300 prisonniers.
Ah, dingue.
C'est ce qu'on appelle les massacres de septembre.
Ok.
La majorité de ces détenus, en fait, a été juste incarcérée la plupart du temps pour cause de suspicion de pensée anti-révolutionnaire. Donc c'était, enfin, à l'époque, c'était si t'étais juste soupçonné, on le voit, les révolutionnaires, au bout d'un moment, se sont tous décapités entre eux. Hein, donc c'était une période vraiment terrible. On compte parmi eux, bien entendu, beaucoup de religieux, religieuses, mais aussi des nobles qui étaient déclarés d'office ennemis de la République.
Ouais.
L'abbé Carnus donc a fait partie de ces victimes. Lui est massacré le 3 septembre aux côtés de trois autres prêtres aveyronnais. Les abbés Jean-Antoine Segond, Jean-Pierre Garrigue et Jean Lacan.
D'accord.
Voilà.
Ah bah dis donc. Massacré donc par la foule.
Massacré par la foule.
Ah
non, par la foule. Non, par la foule. C'est toute la foule de Rodez, de Paris, est rentrée vraiment à forcer les prisons et ils ont massacré, mais vraiment tout le monde. Et puis quand je dis massacré, les détails, c'est des détails terribles. Décapiter, les têtes promenées sur des pics, les entrailles, comme Madame de, je sais plus, c'est Madame de Polignac ou Madame de Lamballe, je sais plus, les entrailles aussi sur des pics. Enfin, ça a été terrible. On a rapporté des scènes de cannibalisme où les gens mangeaient le cœur, mais terrible, mais vraiment, j'insiste, excusez-moi lourdement là-dessus, mais il faut savoir, alors je critique absolument pas la République, bien entendu, mais je suis aussi républicain, mais la Révolution, on le sait, a été quand même accouchée dans la douleur.
C'est sûr.
Faut surtout pas l'oublier.
Non.
Alors, au niveau des prêtres aveyronnais, on compte 164 prêtres qui sont morts, soit en déportation, soit en prison, soit tués sans procès.
Dans
sans
la période rien. Révolutionnaire.
Pendant la période révolutionnaire.
Quand même, hein.
Alors j'ai une liste, mais bon, je ne vais pas l'énumérer.
64, non.
Juste 67 qui ont été exécutés directement à Rodez.
D'accord.
Voilà. Si vous allez justement à l'église Saint-Amand, oui. Il y a une plaque qui commémore l'exécution de, alors je sais plus, c'est moins d'une dizaine de prêtres qui eux ont été exécutés, c'est des prêtres de Rodez qui ont été exécutés place du Bourg, c'est là où se trouvait la guillotine.
Ouais.
Okay. En octobre 1926, le pape Pie XI déclare bienheureux 191 victimes du massacre de septembre, et parmi lesquelles se trouve l'abbé Charles Carnus. Mm-hmm. Donc l'abbé Charles Carnus, pour l'église, est bienheureux.
Bienheureux.
Bienheureux,
c'est
juste, avant,
sous,
juste avant d'être saint.
Voilà. Voilà.
On est vénérable, bienheureux, et après saint. Pour conclure, je vais vous donner un petit peu des lieux où vous pouvez retrouver quelques traces de notre abbé Volant. Alors, tout près des studios, là où il a enseigné, et là où le ballon, merci, est parti, a décollé, il y a une plaque qui est apposée sur le mur de la galerie Foch,
ouais.
Côté place Foch.
D'accord.
Et qui commémore donc le lieu d'où sont partis les abbés Carnus et Louchet le 6 août 1784.
Uh-huh.
Une stèle également se trouve au hameau de Comels, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, sur la commune de Flavin. Et c'est pour indiquer. Avant c'était le point A, là c'est le point B. Mmh. C'est le lieu où la montgolfière a atterri. Vous pouvez également trouver une plaque dans la superbe petite église de Notre-Dame de Vanques. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
Tu as évoqué tout à l'heure.
Donc juste à côté du village de Séveillerac.
Ouais.
C'est vraiment très 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 beau. Le lieu est superbe. Moi j'ai eu la chance de la trouver ouverte une fois. C'est assez rare. En général, elle est fermée. Bon, beaucoup d'églises, surtout celle-là qui est vraiment isolée, sont. On les protège parce qu'il y a beaucoup de cambriolage.
Bien sûr.
Donc si vous avez la chance de pouvoir l'ouvrir, à l'intérieur se trouve une plaque parce que c'est dans cette église qu'a été baptisé le lendemain de sa naissance Charles Carnus.
Très bien.
Également, donc comme je le disais au début, c'est un lieu assez connu sur Rodez, c'est le lycée Charles Carnus.
Ah, je vois pas lequel c'est.
C'est un lycée privé qui se trouve à Bourran.
Ah bon, je
à Bourran, tu sais, quand tu descends vers l'Aveyron, en face du petit séminaire Saint-Pierre.
Ça y est, je vois.
Et ensuite, nous avons à Rodez la rue Carnus, qui est sur le plateau de Camonil, juste devant le lycée Monteil.
Ouais.
Et on a également l'impasse Carnus, qui est une impasse qui part du boulevard Paul Ramadier.
Ah d'accord, ok, voilà. Très bien.
Eh ben bon, voilà, écoute, pour notre abbé Volant, voilà, identifié.
Rodez a rendu des honneurs quand même, avec cette impasse.
Et puis la montgolfière, ville de Rodez, attention.
Un coup à refaire.
C'est ça.
Ah, pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas.
C'est ça.
Pour les 200 ans, ouais, on sera plus là. Enfin, moi, non.
Je pense pas non plus. Ouais. Ou alors...
C'est une idée pour les enfants.
Vaut mieux dire qu'on
ne
sera pas là.
Voilà. Bon, merci beaucoup, Vincent, une nouvelle fois pour ce partage de connaissances avec toi. Et aujourd'hui, l'histoire de l'abbé Charles Carnus. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et donc, on a dit, on va s'intéresser
Je vais vous parler d'une fierté, puisque... on a parlé de Jean Béthou l'année dernière, l'artiste au maquis.
Ouais.
J'ai écrit donc un ouvrage d'art et d'histoire qui va parler de ses dessins et aussi du personnage. Donc on en parlera la prochaine fois.
Avec plaisir. Merci Vincent.
Merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.